Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens. Avec aujourd'hui Politico, le site d'information américain qui s'installe à Bruxelles. La folie des paris sur le Royal Baby à Londres. Un futur Premier ministre finlandais entré en politique il y a 4 ans seulement. Un immeuble qui se met au vert à Turin. Mais tout de suite, info exclusive sur cette affaire d'espionnage des services secrets allemands pour le compte des Américains. C'est un nouveau scandale d'espionnage qui secoue l'Allemagne depuis quelques jours. Au départ, des révélations fracassantes, jeudi dernier, de l'hebdomadaire Der Spiegel, qui ont mis le feu aux poudres. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, les services de renseignement allemands ont espionné pendant des années des entreprises et des personnalités politiques européennes, et ce pour le compte des États-Unis. La députée d'opposition du parti Die Linke, Martina Renner, a accordé un entretien exclusif à notre correspondant à Berlin, Julien Méchaussier. Membre de la commission d'enquête parlementaire sur les activités de la NSA, elle dénonce une affaire d'État qui concerne aussi directement la France.
C'est en pleine audition de la commission d'enquête du Bundestag sur la NSA que les parlementaires ont découvert les révélations du Spiegel. Le Bundesnachrichtendienst, les services secrets allemands, ont collecté des données et espionné des numéros de téléphone, des adresses IP d'ordinateur et e-mail d'entreprises européennes. Les services allemands les ont alors livrés à la NSA, l'agence américaine de la sécurité. Des centaines de milliers de données collectées qui concernent directement les pays européens, au premier rang desquels la France, selon Martina.
Il s'agit de personnalités politiques de premier plan, d'administration et aussi certainement de différents ministères. Mais également Eurocopter et EADS ont été pris pour cible. Nous parlons ici de projets européens, de projets franco-allemands. Les intérêts de la République fédérale allemande sont donc aussi touchés. Et pour les agents allemands qui ont espionné des entreprises travaillant sur des technologies militaires, ce n'est rien de moins qu'un acte de trahison.
S'il est impossible d'établir à ce jour précisément les responsabilités de chacun, la NSA a bien délégué à une cellule isolée au sein du BND ses activités d'espionnage sur le sol européen. De l'espionnage économique donc, avec des entreprises comme Eurocopter et EADS, mais peut-être bien aussi de l'espionnage au plus haut niveau politique.
Il se murmure clairement qu'un président de la République française serait également concerné avec une adresse électronique. Nous parlons d'une période qui s'étend de 2005 à 2013. Je ne suis donc pas en mesure d'affirmer de quel président il s'agit. Mais la même chose vaut aussi pour d'importants représentants du gouvernement français, ce qui en soi ne constitue pas une surprise. La NSA a bien essayé d'espionner le téléphone portable de la chancelière allemande.
De quoi mettre à mal les relations franco-allemandes. Depuis les attentats du 11 septembre, les Allemands et les Américains n'ont cessé de renforcer leur collaboration en matière de renseignement. Avec comme moyen notamment la station d'écoute de Bad Aibling, située en Bavière, directement mise en cause et épicentre de cette coopération. Une coopération avec contrepartie.
Le BND récolte des données pour la NSA et en contrepartie, la NSA lui livre des technologies, en particulier des technologies de saisie d'informations, mais également des logiciels d'analyse de données que ne possédait pas alors le BND ou qu'il était incapable de développer lui-même. Mais le BND ne voulait pas se contenter de ces technologies. L'objectif final, dès le départ, était d'obtenir à son tour des données de la part de la NSA.
Toujours selon des informations détenues par Martina Renner, d'importantes sommes d'argent ont également circulé des États-Unis vers l'Allemagne. Le BND, dénonçant régulièrement un budget trop faible, aurait ainsi pu en partie se financer pendant des années. Des révélations qui posent aussi la question de la responsabilité de la chancellerie fédérale, le BND étant sous sa tutelle directe. Une chancellerie à qui la commission d'enquête réclame l'accès à la liste complète des cibles espionnées.
Pour le moment, nous avons un gros problème. La chancellerie nous dit, nous vous donnons cette liste quand nous aurons l'accord des États-Unis stipulant que nous pouvons vous la communiquer. C'est hallucinant. Le pays qui espionne notamment sur le plan économique est en même temps le pays qui décide si la commission d'enquête a accès ou non aux documents cruciaux. C'est absurde. Nous exigeons de la part de la chancellerie dès cette semaine la remise de cette liste, sinon nous irons en justice.
Le scandale est retentissant et pourtant l'affaire n'en est qu'à ses balbutiements. Si la chancellerie affirme n'avoir été informée que récemment de cette collaboration entre la NSA et le BND, de nouvelles informations affirment que l'État allemand était au courant depuis au moins 2008. Quant aux autorités françaises dont des intérêts ont été espionnés par le renseignement allemand, elles observent, pour l'instant, le plus grand silence.
Et cette affaire d'espionnage, on en parlera peut-être sur le site de Politico, le journal en ligne américain qui en 2007 a bouleversé le paysage médiatique de Washington et qui vient de s'installer à Bruxelles pour suivre la politique européenne. Objectif annoncé de politico.eu, rendre les institutions européennes si passionnantes qu'Hollywood aura bientôt envie d'y tourner des films. Bonjour Johanna Hochstein.
Bonjour Laurent.
Alors vous avez assisté au lancement du site et de la version papier. Comment est né ce projet, Johanna ?
Alors d'un partenariat entre Politico et le puissant patron de presse allemand, Axel Springer, qui détient notamment Bild et Die Welt, ils ont en fait racheté European Voice, un hebdomadaire spécialisé de l'actualité européenne, dont le titre disparaît au profit de celui de Politico. Et les promoteurs du projet ont estimé que les Américains devraient s'intéresser davantage à l'Union européenne, en raison notamment de la lutte de l'UE contre les infractions à la libre concurrence. Vous l'avez vu, ces dernières années, les multinationales américaines n'échappent plus aux griffes de la Commission européenne. Souvenez-vous, il y a d'abord eu l'amende colossale infligée à Microsoft, et puis ce mois-ci, la décision de lancer une attaque frontale à l'encontre de Google. Autre raison, la tendance à la libéralisation complète des échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Depuis 2 ans, les Européens négocient avec les Américains le plus gros accord de libre-échange de tous les temps. Bref, pour les propriétaires de Politico, Bruxelles est devenue un lieu de pouvoir mondial incontournable comme Washington.
Alors Johanna, pourquoi l'arrivée de Politico fait-elle autant parler d'elle ?
Eh bien parce que Politico a mis de gros moyens. Il y a eu le lancement en grande pompe jeudi soir avec plus de 700 invités, dont le président du Parlement européen, le secrétaire général de l'OTAN, 3 commissaires européens et l'ancien ministre suédois des Affaires étrangères. Et puis ses créateurs n'avaient pas caché leur ambition. Il y a peu, sur Twitter, ils annonçaient vouloir créer la plus grande rédaction impartiale de Bruxelles, fin de citation. Et avec à ce jour 36 journalistes installés dans des locaux provisoires, on peut dire qu'effectivement c'est là le plus important contingent de presse accrédité auprès des institutions européennes. Et il faut ajouter à cela des correspondants à Londres, à Paris et à Berlin. Ce qui peut surprendre, c'est que ce média américain mise sur Bruxelles, alors que la plupart des grands médias européens rechignent de plus en plus à couvrir l'actualité des institutions communautaires.
Alors qu'est-ce qu'on dit chez vous en Belgique de l'arrivée d'un nouveau concurrent potentiel ?
Bien écoutez, dans la presse ici, on hésite entre excitation, inquiétude et exaspération. Beaucoup ici n'ont pas apprécié le caractère grossièrement arrogant de leur autopromotion. Ils affirmaient sans ciller qu'ils allaient révolutionner la couverture des questions européennes, laissant entendre que le travail du millier de journalistes déjà présents à Bruxelles était au mieux médiocre. Et il y a pire, dans le premier numéro de Politico, l'éditorialiste vedette, un publiciste australien qui fait ces jours-ci ses débuts dans le journalisme, n'hésite pas à traiter le très respecté quotidien belge Le Soir de piètre gazette d'étudiants socialistes, une remarque guère appréciée. Et puis il y a le financement de Politico par des multinationales américaines qui jettent aussi le trouble ici.
Alors quel va être le contenu spécifique de Politico pour l'Europe, Johanna ?
Alors, il y a un site internet, exclusivement en anglais pour le moment, accessible gratuitement. Il y a aussi une version imprimée, tous les jeudis, tirée à plus de 25 000 exemplaires. Mais c'est le courriel matinal quotidien, le Playbook, devenu une bible pour les décideurs politiques à Washington, qui est le plus attendu ici. Enfin, Politico va proposer des lettres d'information payantes destinées aux lobbyistes et aux décideurs en tout genre pour plusieurs milliers d'euros par an. Ils pourront être informés des dernières décisions prises dans les domaines de l'énergie, des nouvelles technologies et de la santé, et ce, dès cet automne.
Est-ce que ce projet est rentable ?
Alors Politico compte sur ses lettres payées très cher, sur la publicité très présente sur le site internet et dans l'hebdomadaire, près d'un tiers des pages de la version papier, et sur l'organisation de conférences grassement rétribuées. Les propriétaires se donnent 3 ans pour être rentables. Quant au budget de lancement, les principaux intéressés restent pour une fois discrets, mais on évoque pour le moment plus d'une dizaine de millions d'euros.
Merci Johanna Stein, à très bientôt sur Accent d'Europe.
Au revoir Laurent.
Deux bébés royaux en moins de 2 ans. Peu de Britanniques osaient en rêver, mais avant même que Kate Middleton, l'épouse du prince William, ne tombe enceinte, on spéculait déjà sur un petit frère ou une petite sœur pour le prince George, né en juillet 2013. Alors que les Cambridge, c'est le titre de Kate et William, s'apprêtent à accueillir leur deuxième enfant, les paris sur les prénoms du bambin s'envolent, quitte à organiser des courses de chiens royaux. Reportage de Marie Billon.
Runners now in the parade ring for the world's first corgi race, the Ladbrokes Barkingham Palace Gold Cup. And here we have the favourite for the girls, Elizabeth at 5-1, looking very well in the paddock. Leading the way for the boys now is James at 8-1, ears pricked, looking ready to race, being followed up by Boris at 200-1.
La plupart des futurs parents passent quelques soirées stylo à la main en train de chercher le meilleur prénom pour leur enfant. Mais comme Kate et William ont déjà tellement de choses à faire, le bookmaker Ladbrokes, le géant incontournable des paris, a décidé de leur donner un petit coup de pouce. C'était en mars dernier, plusieurs corgis, les toutous préférés de la reine, se sont affrontés sur un terrain de course, 5 mâles et 5 femelles, pour déterminer le sexe et le prénom du bébé. C'est le corgi Alexandra qui a remporté la coupe. Les toutous de grand-mamie en première ligne pour choisir un prénom, ça ne plairait pas à tout le monde. Mais les Cambridge ne sont pas monsieur et madame tout le monde. D'autant qu'Alexandra est un prénom très probable, selon Jolly Tull, spécialiste de la famille royale britannique.
Il y a déjà eu une reine Alexandra, c'était l'épouse du roi Édouard VII, au début du siècle dernier. Il y a déjà aujourd'hui une princesse Alexandra, donc deux princesses du même nom, ça peut être un peu gênant, mais sait-on jamais. On parle beaucoup aussi d'Alice, c'est un nom assez traditionnel dans la famille royale, une des filles de la reine Victoria portait ce prénom et il y a eu d'autres princesses Alice depuis. C'est donc une possibilité, mais ils peuvent aussi nous surprendre.
Pas sûr par contre que le corgi arrivé bon second partage son nom avec la petite princesse, si c'est une fille bien sûr. Son nom est Camilla, le nom de la seconde épouse du prince Charles, la belle-mère de William. Les Britanniques ne sont pas vraiment fans. Victoria est arrivée 3e et c'est un prénom de choix, bien sûr, donc beaucoup plus plausible. Côté nom de garçon, Spencer a remporté le trophée. C'était aussi le nom de jeune fille de Diana, la mère du prince William, pas de Spencer Royal. James est arrivé 2nd, un prénom beaucoup plus probable que Boris, arrivé 3e.
Je pense que le prénom va rester traditionnel, que ce soit pour une fille ou un garçon. Parce que même si c'est l'héritier en second, il ou elle peut toujours devenir l'héritier. Ils ne vont pas choisir un nom qui fasse trop 21e siècle.
À voir la généalogie, on a vraiment l'impression que les parents royaux piochent toujours un prénom dans le même pot. On a eu 6 Georges et le 7e est né en 2013. Il y a eu 8 Édouard et 8 Henri. Chez les femmes, seulement 5 ont régné et 2 s'appelaient Élisabeth et ça n'est pas un hasard.
Ils gardent les mêmes prénoms pour les rois et les reines parce que c'est un lien historique entre le passé et le présent. C'est une question de continuité. Le prince George a reçu son prénom parce que c'était celui du père de la reine, donc c'était un hommage rendu à lui et à elle. Les parents ne doivent pas demander son avis à la reine, mais ils lui disent toujours leur choix à l'avance et ils ne choisiront jamais un prénom qui ne lui plaît pas.
Ce qui est certain, c'est qu'on ne demandera pas au peuple britannique son avis, car dans la rue, beaucoup ont déjà leur prénom préféré.
Je voudrais bien que ce soit une fille pour qu'on puisse l'appeler Diana, comme la mère de William.
Peut-être pas comme premier prénom, mais comme deuxième ou troisième. Je trouverais ça bien. J'aimais beaucoup Diana.
Oui, parce que les princes et les princesses n'ont jamais qu'un seul prénom. Quatre, c'est le chiffre standard. Et c'est pratique, cette avalanche de prénoms, parce que comme ça, avant de monter sur le trône, le nouveau souverain peut choisir son prénom. Le père d'Elisabeth II a régné sous le nom de George, par exemple, mais son vrai prénom était Albert. D'ailleurs, les Britanniques parient aussi déjà sur le nom du grand-père, celui que Charles prendra quand il montera sur le trône. Sera-t-il Charles III, malgré la mauvaise réputation des Charles I et II, ou bien George VII, comme le veut, là encore, la rumeur.
Entrée en politique, voilà 4 ans seulement, le voici déjà prêt à devenir Premier ministre de Finlande. Juha Sipilä, 53 ans, chef du parti du centre, arrivé en tête aux législatives d'avril. Il n'a pas non plus perdu son temps pour faire fortune, il était déjà multimillionnaire à 30 ans. Mais dans un pays où la richesse n'est pas toujours bien vue, le politicien a su se créer une image bien éloignée des gros cigares et des belles voitures, Pauline Curtet.
Plutôt que de s'offrir une Ferrari, le millionnaire Juha Sipilä a préféré se construire sa propre voiture. Son pick-up bleu, équipé de 2 grandes bonbonnes métalliques pour rouler au gaz de bois, est connu partout en Finlande. Une belle pub pour le politicien qui assure vouloir créer 200 000 emplois verts d'ici 10 ans et qui estime que la transition énergétique est une question de survie pour le pays nordique. De quoi nourrir son image de self-made man, conscient des enjeux du futur. Mais Juha Sipilä est aussi apprécié des Finlandais pour sa discrétion, son allure modeste, qui ont sûrement constitué un atout dans sa campagne contre le premier ministre sortant, Alexander Stubb, beaucoup plus exubérant. Ce caractère plus introverti, terre à terre, il le doit en partie à son appartenance à une branche très rigoriste de l'église protestante finlandaise, les Lestadiens, laquelle n'a pas refroidi les électeurs finlandais. Sans compter que ces derniers ont aussi salué sa persévérance dans la course au poste le plus important de Finlande. Le chef du parti du centre a en effet perdu l'un de ses fils durant la campagne, ce qui ne l'a pas empêché de continuer sa tournée après quelques jours de pause. Mais politiquement, le plus dur reste à venir pour Juha Sipilä. Pour former son gouvernement, il risque de devoir s'allier avec les populistes, europhobes et anti-immigration, les vrais Finlandais, arrivés deuxième dans le compte des sièges à l'Eduskunta, le Parlement finlandais. Ciao.
Sortir. Se mettre au vert au cœur de l'une des villes les plus polluées d'Italie, c'est possible à Turin, où l'architecte Luciano Pia a conçu un immeuble de 63 appartements niché au milieu de 150 arbres, explication de Cécile Debarge.
En remontant la rue Chiabrera, à deux pas du parc Valentino et du Po, impossible de rater le numéro 25. Des arbres grands de 2 à 8 mètres se faufilent à travers des terrasses en bois et un tapis de feuilles vertes recouvre une partie de la façade. C'est un peu comme une cabane d'enfant au milieu de la forêt, mais haute de 5 étages et ultra design. Le tout fait 7500 mètres carrés et a été imaginé par l'architecte turinois Luciano Pia.
J'ai voulu rappeler qu'à proximité de l'immeuble, on a une colline et un fleuve, et c'est pour ça que j'ai recréé un îlot de verdure au milieu du bâtiment. Et donc, la construction est née autour de ce petit bois, et les appartements se trouvent à l'intérieur de ce bois. Vivre dans cet immeuble, c'est comme vivre au milieu des arbres.
Son immeuble forêt, c'est aussi le pari d'un bâtiment à haute efficacité énergétique grâce au végétal. Protection contre le bruit, contre les particules fines de la pollution atmosphérique, régulation de la température des appartements. Les plus de 150 arbres de l'immeuble servent à tout, et notamment à réduire la consommation d'énergie pour le chauffage. Après 5 ans de travaux, les premiers habitants s'y sont installés il y a quelques mois. Certains ont même déjà commencé à planter fruits et légumes dans les potagers prévus à chaque étage. Pour ceux que cette maison forêt fait rêver, il reste quelques appartements en vente, mais mieux vaut avoir quelques économies de côté. Comptez 980 000 euros pour 180 mètres carrés avec 6 pièces et 2 salles de bain. Pour un appartement similaire avec un toit terrasse de 200 mètres carrés, il faudra débourser près d'1 million d'euros en plus. Et pour les voisins qui doivent se contenter de leurs appartements gris, tout n'est pas perdu. L'immeuble forêt leur offre un air plus respirable. En plus d'absorber 200 000 litres de CO2 la nuit, il produit 150 000 litres d'oxygène par heure pendant la journée.
Et c'est la fin d'Accent d'Europe, une émission réalisée et mise en onde par Boris Vichit. On se retrouve demain dès 16h40 en universel et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent d'Europe.